Ça sent bon chez vous.
C'est lundi, c'est ravioli.
Et vous restez dîner?
Moi, je veux proposer aux concitoyens qui ont moins de moyens une agriculture qui soit française, propre, saine et durable.
Mais comment prétendez qu'un castron propre et durable quand on met des pesticides pour tuer le vivant? C'est ça, le problème, il est là.
La chichoumeille de résistance. Ou comment se nourrir en milieu rural. Une émission de Dominique Paturel et Benoît Daviron.
Mais en fait, c'est ça notre mesure part. Manger bien pour rien.
Et bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Radio Pays d'Hérault et RPH Sud. On est sur l'émission La Chichoumaille de Résistance. Nouvelle émission qui vient d'arriver sur les ondes. C'est le deuxième épisode. Elle est toujours animée par Dominique Paturel et Benoît Daviron. Bonjour Dominique et Benoît.
Bonjour.
Alors, petit récapitulatif, vous êtes tous les deux dans une spécialité autour de l'alimentation qui vont vous permettre dans ces émissions de développer cette thématique au niveau local. Dominique, je rappelle que tu es ancienne chercheuse spécialiste de la sécurité sociale alimentaire. Et Benoît, également chercheur au CIRAD. Et à toi, tu as une vision un petit peu plus internationale de l'alimentation.
Voilà, c'est ce dont nous allons parler là.
Et c'est ça, on va commencer aujourd'hui l'émission par cette thématique. Avant de revenir sur le local, on va déjà discuter, enfin en tout cas Benoît, tu vas nous donner quelques informations sur tout le processus historique qui a permis à l'agriculture que l'on connaît aujourd'hui d'avoir l'image et les fonctions qu'on lui attribue. Dominique, c'était important de commencer avec cette thématique, ces émissions?
Oui, c'est très important pour moi qui travaille sur la démocratie alimentaire. Parce que dans le projet de sécurité sociale de l'alimentation tel qu'il est aujourd'hui repris par tout un tas de collectifs, qui est basé sur 4 activités, l'activité de production agricole est fondamentale. Donc d'avoir à un moment donné du temps sur un regard long sur l'histoire de l'agriculture, c'est extrêmement important.
Cette émission, Benoît, ne sera pas seule, puisqu'il va y avoir parce que c'est un sujet tellement dense qu'on ne peut pas vous le proposer en 30 minutes seulement. Donc il va y avoir plusieurs épisodes consacrés à cette thématique. Est-ce que, avant que l'on commence, tu peux nous faire une petite synthèse des éléments dont tu vas nous parler aujourd'hui?
Oui, alors je vais vous en parler en fait en deux temps au cours de plusieurs émissions. Dans un premier temps, je vais essayer de rendre compte vraiment des transformations qu'a connues à la fois la façon de produire les produits agricoles et la façon de les utiliser, en faisant référence à la notion de métabolisme que je vais tout de suite introduire. Et dans un deuxième temps, je reviendrai sur ces transformations en essayant de les expliquer en relation avec les rivalités internationales, en fait les grandes périodes de rivalité internationale et les situations qu'on va appeler d'hégémonie, c'est-à-dire des situations, des moments dans l'histoire où un pays en fait a réussi vraiment à s'imposer à l'échelle internationale. Donc l'idée c'est bien ça, c'est d'essayer de comprendre comment on en est arrivé là en fait, comment on en est arrivé à cette agriculture qu'on appelle parfois agriculture industrielle, que j'appellerais, moi je préférerais l'appeler plus clairement agriculture de la chimie ou agriculture du pétrole, parce que le mot industrie n'est pas forcément le plus clair. Et donc comment on en est arrivé là, par quel processus? Et je vais le faire en deux temps. Dans un premier temps, je vais raconter en fait comment ces transformations de l'agriculture s'inscrivent dans une transformation plus générale de nos sociétés et de ce qu'on peut appeler leur métabolisme en fait, le métabolisme des sociétés. Qu'est-ce que c'est que le métabolisme d'une société? Finalement, qu'est-ce qu'on entend par ce terme-là? C'est les flux d'énergie et de matière qui lui permettent d'exister. Que ça soit à l'échelle d'un pays entier, à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'une famille, d'un ménage, on a toujours en fait des flux d'énergie et de matière qui vont permettre à ces différentes entités sociales d'exister. C'est comme ça, c'est impossible d'exister sans consommer de l'énergie et de la matière, qu'on soit de nouveau un ménage, une ville ou un pays. Donc il y a des flux d'énergie et de matière qui rentrent, il y en a qui sortent, ce qui sort généralement, on appelle ça des déchets. Et c'est important, hein, on en reparlera, je pense, au cours de ces émissions, mais la question des déchets, en fait, est très importante et c'est sans doute ça qui est en train de plomber vraiment nos sociétés. Ce métabolisme, en fait, on peut, dans l'histoire, en distinguer deux, hein, de manière très caricaturale peut-être, mais distinguer ce qu'on pourrait appeler le métabolisme des sociétés traditionnelles ou sous-développées, vous appelez ça comme vous voulez, qui est ce que j'appelle, moi, le métabolisme solaire, c'est-à-dire le métabolisme, en fait, de sociétés qui reposent, qui tirent l'essentiel de leur matière et de leur énergie du soleil, le plus souvent indirectement, en fait, sous la forme d'êtres vivants, d'abord des végétaux, puis des animaux, donc de biomasse, hein, être vivant, moi je parlerai souvent de biomasse, quand j'utilise le mot biomasse, c'est pour parler des êtres vivants ou de leurs produits, de leur production. Donc dans le cadre de ces sociétés à métabolisme solaire, en fait, la source d'énergie et de matière, c'est d'abord la biomasse, plus deux choses qui peuvent paraître accessoires, mais en fait qui ont joué un rôle important dans l'histoire, qui est le vent et les cours d'eau. Le vent n'existe que parce que le soleil, hein, c'est le soleil qui donne naissance au vent. Et le vent, ben, ça va avoir un rôle pas négligeable, on va le voir, ne serait-ce que pour le transport sur la mer, c'est important. Et les cours d'eau ont aussi joué un rôle important, à la fois pour permettre la circulation des produits, et puis comme source d'énergie mécanique, par exemple avec tous les moulins qu'on a pu avoir en Europe et ailleurs. Donc ça, c'est ce que j'appelle le métabolisme solaire, les sociétés qui vivent avec ça. Et puis ce qu'on a eu au cours de l'histoire, ce qu'on a appelé la révolution industrielle, c'est finalement le développement de sociétés qui ont eu un métabolisme de plus en plus que j'appelle minier, un métabolisme minier, c'est-à-dire pour lesquels les ressources du sous-sol ont joué un rôle de plus en plus important comme source d'énergie et de matière. Source de charbon, de pétrole, de gaz, hein, ça c'est d'uranium, ça c'est pour l'énergie, mais aussi métaux ferreux, métaux non ferreux, tout un tas d'autres choses qu'on tire du sous-sol et qui vont être de plus en plus essentielles dans la vie matérielle des sociétés. Donc là, avec ça, on a deux grandes caractéristiques, deux grands métabolismes en fait. Aujourd'hui, le métabolisme minier s'est clairement imposé et nous pose des tas de problèmes, hein. On peut considérer que les problèmes qu'on appelle environnementaux, ils sont en fait, c'est les problèmes du métabolisme minier et en bonne partie des déchets du métabolisme minier. Et donc c'est dans cette transformation, dans ce passage du métabolisme solaire au métabolisme minier que je vais essayer d'expliquer les transformations qu'ont connues les agricultures.
Oui, je voulais juste te demander du coup à quelle période est-ce que tu situes ce passage ?
Ben, le premier pays qui va vraiment adopter une logique de métabolisme minier, c'est le Royaume-Uni avec sa révolution industrielle, donc au 18e, disons. Au cours du 18e. En fait, bon, là, à une émission de radio, c'est pas possible de le présenter visuellement, mais on a des très beaux graphiques qui existent où on voit la part des différents types d'énergie dans la consommation énergétique du Royaume-Uni. Et on voit bien, au cours du 18e et surtout du 19e, comment progressivement le charbon remplace totalement la biomasse comme source d'énergie, en fait, utilisée par l'Angleterre. Je voulais juste rajouter, avant de revenir sur le métabolisme solaire et l'agriculture dans le métabolisme solaire, un petit mot sur les déchets. Parce que vraiment, aujourd'hui, le problème, c'est les déchets. Hein. Le CO2, le gaz carbonique, qui crée tous ces effets de gaz, tous ces effets de serre sur la planète, c'est un déchet. C'est un déchet de l'activité des sociétés humaines, du fait, en particulier, qu'elles utilisent essentiellement des ressources fossiles comme source d'énergie. La différence majeure du point de vue des déchets entre métabolisme solaire et métabolisme minier, c'est que le métabolisme solaire repose d'abord d'une part beaucoup sur de la biomasse et donc les déchets d'utilisation de la biomasse, ce sera de la biomasse elle-même qui trouvera sa place dans le cycle du vivant et donc qui vont être recyclés naturellement par le vivant. Et l'autre déchet très important pour le métabolisme solaire, il a la vertu d'être sur le soleil lui-même, en fait c'est l'hélium qui est créé quand il y a de la fusion qui donne naissance au rayonnement solaire sur le soleil, et l'hélium reste sur le soleil, n'est pas sur Terre. Or, dans le cadre du métabolisme minier, les déchets qu'on génère dans le cadre du métabolisme minier restent sur Terre. C'est le CO2, c'est tous les molécules azotées, mais c'est aussi les déchets de pesticides qu'on va retrouver un peu partout. Les déchets sont là, et ils restent sur Terre. Et c'est avec eux qu'il faut arriver à faire, en sachant que, ou bien on génère des produits qui n'ont pas de place dans le vivant, les pesticides par exemple, qui n'ont pas de place dans le cycle du vivant, ou bien des déchets en bien trop grande quantité pour que le vivant arrive à les recycler, comme le carbone aujourd'hui, généré sous forme de CO2 dans l'atmosphère. Je m'arrête là pour ce qui est des déchets, mais je voulais le signaler d'entrée de jeu, parce que c'est vraiment sur ça que, en fait, est aujourd'hui en crise, d'une certaine façon, le métabolisme minier. Alors maintenant, si on revient au métabolisme solaire, donc à ce métabolisme des sociétés traditionnelles, de toutes les sociétés de la planète, hein, jusqu'au 18e siècle, l'agriculture est évidemment centrale dans cette affaire-là parce que la biomasse est centrale, en fait. Parce que la biomasse est centrale, c'est avec la biomasse que les gens vont se nourrir, vont se chauffer, vont travailler en utilisant des animaux pour labourer les champs, par exemple, ou pour se déplacer, vont entretenir la fertilité des sols en utilisant le fumier qui est produit par les animaux, vont se soigner en utilisant des plantes et différentes choses comme ça. Mais aussi, c'est avec la biomasse qu'on va construire des meubles, que le menuisier va travailler, que le cordonnier va travailler, que le forgeron va travailler en utilisant du charbon de bois, le verrier, l'artiste peintre. Si un artiste peintre jusqu'au XVIIIe siècle utilise essentiellement de la biomasse pour peindre, que ce soit pour les colorants ou pour les outils qu'il utilise. Donc la biomasse est au cœur de la vie matérielle de ces sociétés. En sachant que pour une société donnée, la quantité d'énergie et de matière disponible, hors vent et eau, elle va dépendre de la surface de terre contrôlée, puisque in fine, c'est une question de photosynthèse capturée, la quantité d'énergie capturée, disponible. C'est la photosynthèse qui va être réalisée par les plantes sur un espace donné. On n'a pas d'autres sources d'énergie première, disons, que c'est cette énergie solaire capturée par les plantes dans le territoire de la société. On a une quantité d'énergie disponible définie par le territoire et avait un espèce de jeu à somme nulle entre les différents types d'espaces qu'on va avoir sur ce territoire. Entre les champs, les pâturages et les forêts, les champs vont fournir essentiellement de l'alimentation et puis aussi des fibres textiles, des choses comme ça. Les pâturages vont fournir vont permettre de nourrir des animaux, mais j'en reparlerai, mais sachant que l'enjeu des animaux, c'est pas tellement l'alimentation, mais c'est du travail, c'est du cuir, c'est des fibres, c'est du fumier, c'est de la graisse, c'est des tas de choses comme ça. Et puis, on a la forêt qui fournit le bois, ou directement. Et on peut, si on veut avoir plus de bois, on aura moins de champs et moins de pâturages. Ou si on veut avoir plus de champs, on aura forcément, il faudra prendre sur les pâturages ou sur la forêt. C'est le cas, par exemple, des sociétés chinoises très avancées dans le bassin du Yangtze, où en fait, il y avait une telle croissance démographique. Alors, on ne sait pas quelle est l'œuf, quelle est la poule, d'ailleurs, dans cette affaire-là, mais qu'il n'y a pratiquement plus de forêt et plus d'animaux, mais que des champs cultivés par des humains, et tout le travail est fait par les humains. Il n'y a plus de place, d'une certaine façon, pour les animaux. On a des champs partout. Et très peu de forêts aussi, et en fait, c'est beaucoup la paille, par exemple, qui va servir de combustible. Dernière caractéristique qui est très importante pour comprendre ces sociétés à métabolisme solaire et la question agricole dans cette affaire-là, c'est que ces sociétés vivent dans le cadre de ce qu'on peut appeler une énorme tyrannie de la distance, c'est-à-dire que, en particulier de la distance terrestre. En fait, les seules sources d'énergie mécanique mobile qui existent, c'est les humains et les animaux. C'est-à-dire une source d'énergie qui puisse... On a des sources d'énergie non mobiles qui sont les moulins, ou à vent ou à eau, donc qu'on va utiliser pour transformer, pour faire de la farine, par exemple, pour faire des tas de choses, en fait. Hein. Mais en source d'énergie mécanique mobile, on n'a que les animaux et les humains. Et en fait, ça impose une contrainte très forte sur le transport, par exemple, des céréales ou des produits alimentaires, puisque au-delà de, disons, 100 km, les animaux auront mangé tout le chargement qu'ils sont censés transporter pour se nourrir eux-mêmes, pour fournir l'énergie nécessaire au transport. Hein, donc, le transport terrestre est extrêmement contraint dans ces sociétés à métabolisme solaire. La solution, c'est l'eau. En fait, c'est l'eau qui fournit à la fois un support pour le transport qui avec moins de résistance, donc moins des besoins d'énergie, par exemple en faisant des canaux. Et l'idéal étant la mer où on va pouvoir à la fois utiliser l'eau comme support du transport et puis le vent. Et le vent qui va permettre de se déplacer. Une personne, un individu avec une voile, un bateau, mais multiplie sa capacité énergétique par 10, par 20. C'est-à-dire qu'en utilisant la force du vent, on a une ressource énergétique incroyable. Ce qui va expliquer l'importance de la proximité de l'eau, j'en reparlerai, mais pour construire des villes, par exemple. Une ville ne peut exister qu'à côté de l'eau, parce qu'une ville ne peut exister qu'en apportant beaucoup de biomasse, et que cette biomasse, elle pourra être transportée si on est à côté de l'eau. Et on en rediscutera dans la prochaine émission, mais pourquoi Venise, pourquoi Amsterdam? Parce que l'eau, c'est des villes qui sont dans l'eau, qui sont sur l'eau. et qui peuvent effectivement grossir, avoir beaucoup d'habitants, être riches, puissantes, parce qu'elles arrivent à mobiliser de la biomasse lointaine grâce au transport maritime, en fait. C'est la seule possibilité. Donc voilà, en gros, pour les grandes caractéristiques du métabolisme solaire et de l'agriculture dans ce métabolisme solaire. Quand les sociétés humaines vont basculer vers le métabolisme minier, alors en commençant par l'Angleterre, effectivement au XVIIIe siècle, en fait on va avoir trois transformations radicales des rapports à la biomasse, de l'usage de la biomasse, de la façon de produire de la biomasse. Au XIXe siècle, en fait, ce qui va vraiment transformer le rapport à la biomasse des sociétés, c'est la possibilité de faire du commerce à très longue distance de ressources pondéreuses, de ressources lourdes, en fait. Donc des choses qui ont peu de valeur par unité de poids, qui sont lourdes, qui sont volumineuses, et qu'on va pouvoir transporter à longue distance. En fait, petit détour d'abord. Les mines existent depuis très longtemps. Les humains connaissent l'activité minière depuis très longtemps, y compris les mines de charbon. Il y a eu une phase dans l'histoire chinoise où il y a eu un usage important du charbon. Ici, Grèce-Sac, dans les Hauts-Cantons, il y a une activité d'utilisation du charbon très ancienne pour fabriquer des clous, hein, en particulier. Il y avait une activité de clouterie à Grèce-Sac, mais oui, qui était très, très importante, en fait, et qui a précédé vraiment l'exploitation, et qui reposait sur l'utilisation de petits filons de charbon, en fait, superficiels, qui étaient faciles à exploiter, qui permettaient d'avoir une source d'énergie thermique, en fait, facile à exploiter. Ce qui va vraiment changer les choses du point de vue de l'exploitation des ressources minières, et du charbon en particulier, c'est la mise au point de la machine à vapeur. Alors ça peut sembler, ça fait un peu trop techno et tout ça, mais malgré tout, je crois que ça reste pertinent de considérer que la machine à vapeur change beaucoup de choses. En fait, la machine à vapeur, qu'est-ce que ça fait? La magie de la machine à vapeur, c'est de transformer de l'énergie thermique, de la chaleur, en mouvement. Et ça, c'est une innovation radicale dans l'histoire de l'humanité. On a de la chaleur et d'un seul coup, on a du mouvement. Ça a d'abord été mis au point, les machines à vapeur, pour pomper l'eau dans les mines. Mais du coup, la machine à vapeur a un rôle essentiel dans le développement de l'activité minière. Elle se développe à côté des mines, parce qu'au début, elles ont un rendement absolument nul, et donc il faut qu'elles soient à côté des mines de charbon, parce qu'elles consomment beaucoup de charbon. Mais en même temps, elles permettent de faire des mines de plus en plus profondes, parce que dès que vous faites un trou dans la terre, dès que vous dépassez quelques mètres, en fait, vous avez de l'eau qui s'y met. Donc si vous ne pouvez pas pomper, vous ne pouvez pas créer des mines importantes. Donc la machine à vapeur va d'abord servir à développer toute cette activité d'exploitation des ressources minières et à basculer vers ce métabolisme minier dont je parle depuis tout à l'heure. Ce qu'elle va faire de manière importante pour l'agriculture, c'est que ce qui va être important, c'est la mise au point de la machine à vapeur, de la locomotive à vapeur, qui révolutionne radicalement la question du transport terrestre. D'un seul coup, on a une source d'énergie mécanique mobile, qui n'est ni les humains ni les animaux. Il suffit d'avoir du charbon ou du bois, comme aux États-Unis, et on peut se déplacer, on peut transporter sur des très grandes distances, sur Terre, d'énormes quantités. Ça veut dire que les villes n'ont plus besoin d'être forcément au bord de l'eau. On va voir émerger des villes industrielles qui sont au milieu de la Terre, comme Saint-Étienne, par exemple, hein, en France, c'est typiquement un exemple de ça. Et on va aussi pouvoir aller chercher les ressources, la biomasse, par exemple, très loin à l'intérieur des terres, ce qu'on ne pouvait pas faire jusqu'à présent, ou alors on pouvait le faire seulement si on avait été sûr qu'on avait une rivière à côté qui allait permettre d'évacuer les produits. Là, on peut rentrer par exemple à l'intérieur du continent américain, et on a des très belles cartes des États-Unis où on voit l'avancée en fait de la colonisation du continent nord-américain au fur et à mesure de l'avancée du chemin de fer. On a des cartes vraiment du chemin de fer qui nous montrent l'avancée en fait de la colonisation du continent nord-américain. Et on va voir en fait émerger un peu partout sur Terre, dans la planète, des endroits que les Européens contrôlent, hein, ce qu'on appelle des fronts pionniers. C'est-à-dire un front pionnier, c'est un endroit où l'agriculture est en train de conquérir le territoire contre des sociétés qui faisaient avant, plutôt, ou bien qui étaient des sociétés de cueillette, en fait, ou bien des sociétés pastorales, ou bien d'agriculture itinérante très, très, très extensive, en fait, et où on va voir donc une espèce de colonisation agricole d'espaces qui n'étaient précédemment pas agricoles. Et un front pionnier, on va en avoir partout, donc comme je vous disais, sur les différents continents de la planète, avec première composante des migrations humaines importantes, donc c'est toutes ces migrations d'Européens qu'on va avoir sur le continent nord-américain, qu'on va avoir en Australie, en Nouvelle-Zélande, qu'on va avoir en Argentine, qu'on va retrouver aussi en Russie. Hein. La Russie, ça a été un territoire de front pionnier extrêmement important. On a une espèce de dynamique, si on visualise l'Europe comme ça, qui va partir à la fois vers l'ouest, le continent américain, et vers l'est, à l'intérieur de l'Eurasie, en fait, et qui va se déplacer. Mais on a eu aussi des migrations, on le sait rarement, ça, des migrations très importantes, en fait, de populations asiatiques, qui ont colonisé ou le nord, en fait, de l'Eurasie, la Mandchourie en particulier, au nord de la Chine, ou bien, par exemple, l'Asie du Sud-Est, avec des déplacements de populations très importantes, de populations chinoises et indiennes, qui ont participé à l'avancée des fronts pionniers dans ces coins-là. Donc, fronts pionniers, avec des migrations importantes, destruction de populations indigènes à tour de bras. Hein. Vous avez tous vu des westerns et vous avez tous vu comment les Indiens d'Amérique du Nord se sont fait exterminer. Mais c'est un processus qui va se répéter dans tous les endroits de front pionnier. Hein. L'État argentin, nation souveraine, a mené une guerre d'extermination contre les Indiens d'Argentine, en fait du sud de l'Argentine en particulier. Mais les Australiens ont exterminé les aborigènes, etc. etc. Hein, donc ça fait partie des grosses caractéristiques de ces fronts pionniers.
Et là, on est au
19e, avancée des chemins de fer, mouvement de migration de populations européennes asiatiques et extermination de populations indigènes et développement de l'agriculture. Donc, est destiné pour bonne partie ce développement de l'agriculture dans les fronts pionniers à alimenter le marché européen, hein, qui d'un seul coup donc peut s'alimenter de manière massive très très loin en fait, Amérique latine, Australie, Russie, etc., etc. Et en Europe, ça s'accompagne forcément d'un déclin de l'agriculture, d'un relatif déclin de l'agriculture. On a une grande crise, en fait, de l'agriculture européenne. Durant toute la deuxième moitié du 19e siècle, l'agriculture européenne est en crise, avec des déclins importants dans un certain nombre de pays, j'en reparlerai, mais au Royaume-Uni, par exemple, le Royaume-Uni sacrifie son agriculture au profit de l'industrie. On en discutera. Autre processus qui est important, parce qu'on le paye encore aujourd'hui, en fait, qui va se jouer à ce moment-là, c'est le développement d'élevage sur la base d'aliments importés. En fait, on voit ça émerger très tôt en Europe du Nord-Ouest, dans les Pays-Bas, au Danemark, en Allemagne, en fait, qui vont importer... C'est une espèce de détournement du flux de céréales qui arrive de Russie ou bien d'Amérique du Nord, et qui vont passer par le Danemark, la Hollande, l'Allemagne, avant que ces pays-là réexportent des produits animaux vers l'Angleterre. Du beurre, du bacon, en fait, qui vont alimenter les petits déjeuners de l'Angleterre. Et donc là, on a quelque chose de nouveau qui émerge, c'est un élevage destiné avant tout à produire des produits alimentaires, et non pas toute la variété de produits qu'on pouvait avoir avant, et des produits alimentaires, en fait, sur la base d'une production... on va commencer à produire des produits agricoles pour nourrir les animaux. Ce qui est quelque chose de très particulier, en fait, et très propre au XXe siècle et à la fin du XIXe siècle. Voilà pour ce qui est de la première grande transformation liée à la dynamique du métabolisme minier. Deuxième grande transformation qui va, elle, démarrer plutôt vers 1850, mais qui est très importante pour comprendre le débat sur l'agriculture aujourd'hui et l'alimentation, c'est le développement de la chimie, et de la chimie de synthèse en particulier. La chimie de synthèse, en fait, c'est donc de la chimie qui repose avant tout, on parle parfois de chimie organique, en fait, qui repose sur l'utilisation du charbon initialement, puis du pétrole et du gaz naturel. Et cette chimie de synthèse, ben, qu'est-ce qu'elle fait en fait? Elle va produire tout un tas de produits qui sont des substituts initialement à la biomasse non alimentaire. C'est-à-dire qu'on va remplacer les fibres, le coton, la laine par des fibres de synthèse, on va remplacer le caoutchouc naturel par du caoutchouc de synthèse, on va remplacer avec le plastique c'est un truc incroyable, on va remplacer tout un tas de matériaux comme le bois, mais pas que lui, le cuir ou des choses comme ça, pour fabriquer des choses. En fait, ce processus, il commence au milieu du 19e siècle, et il commence d'abord, ça peut paraître anecdotique, mais c'est très important en fait, par la création de teintures de synthèse. Les teintures jusqu'au milieu du 19e siècle étaient des teintures d'origine qui venaient pour l'essentiel de la biomasse. Il y avait quelques ressources minérales qui étaient utilisées, mais l'essentiel des teintures sont de la biomasse. Et la teinture, c'est très important parce que la teinture, c'est en particulier pour le domaine, c'est un élément important d'un secteur du secteur textile. Et le secteur textile pèse très lourd au 19e siècle. Hein. Donc si on veut avoir des beaux tissus bien colorés, il faut de la teinture. Et en fait, la recherche de substituts à partir de charbon, de goudron même, de charbon, en fait, ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. En fait, elle va se faire d'abord pour produire des teintures. Et on va voir autour de cette production de teinture de synthèse, se construire cette industrie chimique. Et les grandes entreprises de la chimie qu'on connaît encore aujourd'hui se sont pour la plupart construites autour de ça, autour de la synthèse de teinture. Les Bosch, les Bosch ou les BASF se sont construits historiquement pour produire des teintures, en fait. Et de là, vont développer toute une activité de synthèse, d'innovation, de recherche et développement, en fait, pour remplacer tout un tas d'autres matériaux. Plastique, lumière, etc., etc. La conséquence de ça, c'est que l'agriculture va devenir finalement spécialisée dans l'alimentation. Tous ces usages non alimentaires, tous ces usages non alimentaires des produits agricoles vont disparaître et de toute façon va s'imposer dans la tête de tout le monde, jusqu'à aujourd'hui, le fait que l'agriculture c'est fait pour manger, c'est fait pour se nourrir. Ce qui est une particularité du XXe siècle. Au regard de l'histoire de l'humanité, c'est vraiment une particularité très récente que l'agriculture soit faite pour, uniquement pour se nourrir. Et les animaux sont vraiment l'illustration la meilleure de ça, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Les animaux dans l'agriculture des sociétés à régime métabolique solaire, ça fait des fibres, ça fait de la peau, ça fait du travail, ça fournit des engrais, ça fournit du gras pour la lumière. La lumière, c'est vraiment un sujet très intéressant à regarder de ce point de vue-là. Et aujourd'hui, les animaux, et ça c'est lié à cette transformation, à cet émergent des produits de synthèse, c'est devenu des protéines et de l'affection. Hein, les animaux, où on les mange, où on les caresse aujourd'hui, et on ne travaille plus avec eux comme on pouvait travailler, ou on n'utilise plus toutes les matières que ça pouvait produire autrefois. Voilà pour ce qui est de la deuxième étape de ce processus-là. La dernière, est-ce que j'en parle maintenant ? Oui, on a encore le temps, au moins on l'initie. C'est en fait la dernière transformation, et qui est très importante pour comprendre où on en est aujourd'hui, c'est le développement de l'utilisation des ressources de l'activité minière, des mines, dans la production agricole elle-même. Et donc vraiment l'émergence de ce que j'appelle l'agriculture de la chimie ou de l'agriculture du pétrole. Ce développement de l'utilisation des ressources minières dans l'agriculture elle-même, elle va se faire sous trois formes. D'abord, sous la forme d'engrais. Alors, bien sûr, la potasse et le phosphore, c'est clairement des ressources minières, c'est des minerais. Mais le plus spectaculaire, le plus important, c'est l'azote, en fait. Dès le milieu du 19e siècle, il y a une fin d'azote, il y a une quête d'azote pour l'agriculture, et on va utiliser beaucoup d'azote fossile sous forme de guano, hein, qui va être exploité. Donc dans le Pacifique, il y a des îles dans lesquelles il y a du guano qu'on va vraiment exploiter comme une ressource minière, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus du tout. Et puis les nitrates du Chili, par exemple. Mais va arriver ici une innovation majeure qui est en 1913 la synthèse de l'ammoniac. L'ammoniac, c'est une molécule d'azote et trois d'hydrogène. Et à partir du moment où on a de l'ammoniac, on peut faire des engrais azotés. La particularité de l'ammoniac et de ce processus à Bosch pour faire de l'ammoniac, c'est qu'on va utiliser l'azote de l'atmosphère. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où on a une ressource d'énergie fossile comme le charbon ou le pétrole, on ne dépend plus d'importation d'azote, on n'a plus besoin d'aller chercher l'azote au loin, on peut le fabriquer chez soi grâce à ce procédé à Bosch qui utilise beaucoup d'énergie pour faire de la chaleur et de la pression, mais si on a du charbon, ce n'est pas un problème.
Est-ce que... pourquoi tout d'un coup comme ça, ce besoin d'azote plus ?
Besoin d'azote plus parce qu'il y a besoin d'accroître la production, parce qu'on a une dynamique démographique très forte et d'industrialisation. C'est-à-dire qu'il y a une double demande sur la biomasse jusqu'à ce moment-là, puisqu'on en est au début de la substitution des produits de la biomasse par des produits de synthèse. On a une demande de biomasse très forte. Hein. Le 19e siècle, la première phase industrielle du 19e siècle, il y a une demande de biomasse énorme pour le non-alimentaire aussi, pour le textile, pour un tas de choses. Hein. Donc, il y a ça. Et puis, il y a aussi le fait que l'azote, ça permet, c'est nécessaire pour faire des explosifs, en fait. Et si la synthèse de l'ammoniac a lieu en 1913, c'est pas un hasard, c'est parce que ça permet aussi d'avoir un approvisionnement en explosifs qui ne dépend plus des nitrates du Chili. Okay. Et j'en reparlerai, ça va se faire en particulier en Allemagne.
Merci beaucoup Benoît d'Aviron. Quel challenge de, de résumer tout ça en 30 minutes. Du coup, à la prochaine émission, le mois prochain, on va continuer cette historique. Sur quel grand changement ou thématique vas-tu nous emmener ?
Alors, je vais reprendre ce point-là, ces transformations de l'agriculture liées au fait qu'on utilise de plus en plus de ressources minérales dans l'agriculture. Minières, je veux dire, pas minérales, minières, c'est mieux. Mais aussi après, donc, essayer d'interpréter toutes ces transformations au regard des rivalités internationales et de l'histoire des rivalités internationales elles-mêmes et de la succession des hégémones.
Allez, ben on va vous quitter là-dessus. Merci beaucoup Benoît et Dominique. C'était la Chichoumaille de Résistance. Au mois prochain.